émission spéciale sur les ateliers de lecture à voix haute du service culturel de l'Université Rennes 2 avec Rosane Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es comédienne et metteur en scène pour la compagnie de théâtre KF Association et tu as été sollicitée pour animer les ateliers de lecture à voix haute qui se sont déroulés donc fin janvier et début février. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces ateliers, sur le travail qui a été fait. Il y a eu deux ateliers de travail. Alors, d'abord, quel public était visé pour ce travail, pour ces ateliers?
Le public visé, ce sont les étudiants, le personnel de la faculté et des étudiants aussi en auditeur libre, c'est-à-dire tous les étudiants. Et puis aussi, c'est ouvert, ça reste ouvert dans le cas de places disponibles aux personnes qui sont informées, au courant et qui souhaiteraient, donc je parle des personnes qui ne sont pas inscrites dans la faculté, pouvant éventuellement, dans le cas de places disponibles, participer. Et les ateliers de lecture à voix haute ont démarré par de la lecture à voix haute en octobre. Il y a eu 3 sessions, octobre, novembre et décembre, sur le même principe d'ateliers qui sont des modules différents chaque fois, donc des groupes différents chaque fois, de 3 jours, de 2 heures par jour. Et ceux qui ont eu lieu en janvier et février étaient destiné à la lecture au micro, qui n'est pas du tout la même chose que la lecture à voix haute, qui est plus théâtrale. Mais là, c'était vraiment orienté lecture radiophonique.
La lecture à voix haute, est-ce qu'on pourrait comparer cela à de la comédie, quelque part, puisqu'il s'agit de lire un texte devant du public? Il y a une part de comédie, non?
On fait appel aux artifices, ou en tout cas au talent d'acteur, parce qu'il y a la projection de la voix, ce qui n'est pas le cas pour la radio. Hein.
D'accord.
Il y a la projection de la voix, il y a une respiration particulière, parce que ce sont des textes là choisis spécifiquement comme des textes qui ne sont pas destinés à être dits, mais à être lus en lecture intime. Donc, du coup, il y a une part d'interprétation, on s'empare du texte, on s'en fait un ami, mais que ce soit radiophonique ou voix projetée, hein. On respire le texte différemment quand on le dit de quand on le lit. C'est pas la même respiration. Quand on le lit, on a le temps, on peut revenir en arrière. Quand on le dit, eh bien, faut émettre du son, donc il y a de la respiration. Et puis, quand c'est un texte qui a été écrit pour être lu, il a sa propre... il est unique, il a sa propre respiration, ses ponctuations... Quand il est dit, pour que ce soit audible pour les personnes qui n'ont pas le texte sous les yeux et compréhensible et qu'ils puissent se projeter eux-mêmes dans la lecture, fabriquer des images et comprendre ce qui se dit, il y a une respiration tout autre. Donc c'est là-dessus en fait qu'on a travaillé. Donc
d'accord.
Il y a une part dans la respiration, ça inclut évidemment une interprétation, mais ce n'est pas une incarnation pour autant, ça reste de la lecture.
D'accord. Est-ce qu'il s'agit, dans la lecture pour la voix radiophonique, de faire en sorte que les personnes voient quelque chose en écoutant le texte ?
Qu'ils puissent se projeter des images, c'est très important, oui. C'est, n'ayant pas le texte sous les yeux, les mots sous les yeux, les seuls capteurs... Ce sont les oreilles. Les sons produisent des sensations, mais les mots amènent l'auditeur à se fabriquer, à faire appel à sa propre mémoire et fabriquer des images. Et pour ça, il y a du besoin d'un petit laps de temps qui n'est pas le même que quand on a le texte sous les yeux. Voilà. Donc, ça participe d'une technique qui se rapproche de celle de l'acteur.
Alors, quels ont été justement les moyens pour apprendre à ces personnes qui, je suppose, n'avaient jamais fait de lecture auparavant?
La plupart, oui. Ouais.
Quels ont été les moyens que tu as mis en place? Quels étaient les outils, en fin de compte, pour leur permettre de faire ces lectures qu'on va entendre dans quelques minutes?
Je pars toujours du corps. Le texte arrive après, parce que pour pouvoir lire un texte, pour pouvoir être à l'aise avec ne serait-ce que le papier, il faut déjà être à l'aise physiquement. En tout cas, ça c'est mon travail d'actrice qui intervient à ce moment-là. Particulièrement pour la lecture au micro, on est passé par un premier essai qui était celui d'écouter sa voix, ce qui n'est pas une chose évidente, c'est pas forcément agréable, et c'est une surprise, donc qui peut être en effet agréable ou désagréable. Donc il y a eu déjà ce petit essai qui était important de se rendre compte que la voix qui passe dans le casque n'est pas la même que celle qu'on entend dans la vie de tous les jours. Et puis ensuite, la lecture, eh bien, de réaliser que quand on lit pour les autres, eh bien, on se doit justement de se rendre compte en fait, que le rythme, on ne prend pas le TGV. Voilà, y a un effort. Un effort qui demande aussi de l'énergie, donc tout ça c'est très physique. Il y a un effort qui doit se produire pour que celui qui écoute, entende, reçoive de façon agréable le texte. Donc on est passé par ça, écouter sa voix, se rendre compte du rythme, des fois on parle trop vite, aussi la qualité de la prononciation des mots, que ces mots soient gustatifs, que ça passe par la bouche comme quand on mange, ça doit avoir du goût. On est toujours dans le physique. Hein. Je ne parle pas encore du fond, je suis toujours dans la forme, là. Avant même de rentrer dans le sens du texte, on est dans la sensation du texte. Mais tout le travail, en fait, même celui qui a porté sur la lecture à voix haute, proche du théâtre, enfin, projetée, la voix projetée, j'insiste énormément là-dessus, surtout dans une faculté de lettres où on fait appel énormément à l'intellect, eh bien volontairement j'axe le travail sur la sensation, sur le ressenti, sur le corps. Ça, c'est le point fort de l'atelier.
Sur ce travail, combien il y a eu de rendez-vous en fin de compte avec les groupes pour travailler ces textes ?
Eh bien, 3 rendez-vous qui se sont suivis mardi, mercredi, jeudi, à la même heure, 2 heures chacune des sessions. Chacune des séances de 18h à 20h. Voilà, on s'y est tenu. Avec, en fait, 2 jours où on fait l'expérience du micro, l'expérience de la lecture, on découvre le rythme, on écoute ce que disent aussi les autres, c'est un travail collectif aussi. Et puis le troisième, eh bien, dans votre studio, ça a été la découverte du studio, la découverte de Radio Campus, très important. Et puis là, on rentre dans un univers, un milieu. Pareil, c'était une découverte, et puis toute cette table ronde avec ses 5-6 micros, et puis tous ensemble avec chacun un micro, ce qui n'était pas le cas au moment du travail, avec un seul micro et qu'un seul casque. Et là, il y avait une petite pression, et puis dans un temps donné, il fallait pouvoir réussir à raconter son histoire, sachant que on pouvait pas répéter. Donc, toute cette expérience participe aussi de l'atelier. C'est pas que le texte, c'est tout ce qui se passe avant que le texte existe, avant qu'il soit diffusé.
Voilà, avant ce qu'on pourrait appeler presque une représentation, en tout cas radiophonique.
Oui.
D'accord.
Oui.
On va parler un petit peu de l'auteur.
Oui.
Donc, tu as choisi pour ces ateliers un auteur qui est Georges Amado.
Oui.
On va le dire en français.
Oui.
Qui est cet auteur ? Pourquoi cet auteur ?
Alors, l'auteur a été choisi assez radicalement parce que c'est un auteur assez connu. Moi, je cherchais un auteur brésilien. J'avais très peu de connaissances d'auteurs, poètes, auteurs de chansons. J'ai demandé à une femme brésilienne de me transmettre des noms d'auteurs ou même de la poésie. De la poésie traduite en français, à partir de laquelle j'aurais pu être inspirée pour l'atelier. Et en fait, je suis revenue sur cette histoire de poésie parce que pour cette expérience-ci, la poésie, c'est vraiment particulier. Bon, là, on a le texte de Victor Hugo, mais le texte m'a plu d'emblée. C'est vrai que quand je l'ai lu, il m'a plu d'emblée. Sinon, j'avais lu des textes écrits par Gaetano Veloso, donc de la traduction de chansons. Je trouvais que c'était assez compliqué de transmettre sans... En fait, il chante tellement bien que c'était un peu crapouche de le dire en français, comme ça passait pas. Donc du coup, je me suis orientée vers un romancier et j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas en fait Georges Amado, donc c'est aussi pour moi une découverte. Orienté brésilien, pourquoi le thème, la thématique aussi en lien, comme tous les ateliers, je l'ai fait en lien avec l'actualité du service culturel, proposé par le service culturel. Donc ça c'est ma partie perso. Je trouve que ça a du lien, enfin créer du lien, l'atelier, par rapport à ce qui se passe sur Rennes et ce qui se passe notamment au service culturel. Et donc voilà, Georges Amado, eh bien, j'ai découvert son écriture et je l'ai trouvé très agréable à lire. En fait, d'emblée, quand je me suis emparée de son écriture, tout de suite, évidemment, je l'ai lu à voix haute. Et puis, je l'ai trouvé pas facile. Et c'est là que c'est aussi la raison de l'orientation de l'atelier, c'est que la respiration de l'auteur n'est pas la même que la mienne, déjà, et n'était pas celle nécessaire pour qu'elle soit vivante et intéressante, dite. Et donc, pour s'en emparer, ben, je me suis rendu compte, hein, en fait. Hein, parce que moi, je dis essentiellement des textes qui ont été écrits pour être dits. Et là, je me suis emparé, mais volontairement, j'aime bien la difficulté, de textes qui n'ont pas été destinés à être dits. Alors là, du coup, c'est une langue, bon, c'est une traduction. Hein. Bon, j'en ai pris une, je n'ai pas cherché plusieurs traductions, je ne sais même pas si Georges Amado a été traduit par plusieurs auteurs, je ne sais pas. Mais celle que j'ai choisie, je l'ai trouvée plutôt agréable et agréable à dire. Donc là, c'était une porte ouverte et voilà, une découverte pour tout le monde, parce que personne ne connaissait non plus ce roman en particulier. Donc voilà, voilà l'origine du choix et de la découverte et du choix. Voilà comment ça s'est passé.
Merci, Rosane Fournier.
Ben, merci bien. Ce que je pourrais ajouter, c'est que je tiens à remercier Amélie Théel et puis Estelle Faure, qui sont toutes les deux avec une équipe très dynamique, les muscles et les têtes pensantes du service culturel, et qui sont très généreuses dans leurs propositions, et qui, grâce à qui l'atelier a pu se mettre en place.
Je rappelle, tu es comédienne et metteur en scène pour la compagnie de théâtre KF Association, et nous allons écouter tout de suite les lectures justement de ces ateliers à voix haute du service culturel de l'Université Rennes 2.
Extrait de Teresa Battista de Jorge Amado.
Nouvelle dans la ville, elle ne connaît presque personne. L'avocat connaissait tout le monde. Malgré la lumière tamisée et la situation de la table, la beauté de Teresa ne passa pas inaperçue. Maître Loulou attire son attention sur l'une des tables du centre où deux jeunes gens pâles boivent une batida. Pâleur maladive de l'un, pâleur d'étranger de Sergi P. de l'autre, et des yeux bleus profonds. Le poète ne te quitte pas des yeux, Teresa. Quel poète ? Ce garçon ? Le garçon à la pâleur maladive se met debout. Le verre levé porte un toast à Teresa et à l'avocat. La main posée sur le cœur en un geste ample d'amitié et d'admiration.
Teresa avait réussi à empoigner les rares cheveux du mât de cocagne en arrachant une poignée. Il tente de l'attraper, de lui casser une autre dent de sa main de fer, mais elle, souple et rapide, d'un saut, presque un pas de danse, s'esquive, lui martèle les tibias, continue de lui cracher à la figure. Attendant l'occasion propice pour l'atteindre dans les parties basses d'un coup de pied.
Teresa répéta et dansa dans des costumes qui avaient appartenu à la compagnie. Turban, jupe courte, blouse. Une bonne partie du corps exhibé. Mais pour qui ? Au piano, mélancolique, Florie maudit la cour artistico-littéraire, parfois juridique, presque toujours odontologique, au pied de Teresa. Mais, en plus d'astucieux, il était tenace et avait appris à être patient. C'était lui le propriétaire du cabaret et l'employeur de l'étoile. Qui était mieux placé ?
Des uns et des autres, Teresa se rit, gentille et touchée de se voir entourée de cajoleries et de compliments. Elle, toujours en quête d'affection véritable, avide de chaleur humaine. Mais elle ne se donne pas facilement. Peut-être parce que les seules professions qu'elle a exercées jusque-là ont été celles de bonne à tout faire. Ne faudrait-il pas mieux dire esclave ? De prostituée et de concubine. Parce qu'elle a couché avec des hommes de toutes sortes. D'abord par peur, ensuite pour gagner sa vie. Quand son corps s'ouvre au désir, elle s'abandonne, fébrile et insatiable. C'est toujours ainsi, mais seulement par amour. La sympathie ne suffit pas.
Lui demandèrent, Florille lui demanda à plusieurs reprises, gémit, supplia. Il n'obtint rien. Même si ça avait été pour quelque argent, pour se faire un pécule, ça ne l'intéressait pas. Elle avait encore une petite somme devant elle et elle espérait réussir comme sambiste. Pour quelque temps au moins, elle voulait être maîtresse de sa vie.
Était un professionnel compétent dans son métier. Un consolateur de première, il savait s'y prendre pour sécher les larmes. Ses victimes de la rigidité morale de leur vertueux conjoint, il excellait à leur apprendre tous les degrés du plaisir. Elles apprenaient rapidement, émerveillées, reconnaissantes, insatiables et absoutes de toute faute, purifiées du péché, exempte de remords, avec plus de raison qu'il n'en fallait pour l'adultère. Comment traiter un mari qui, par préjugé masculin ou par excès de respect, considère son épouse comme un instrument, une chose, un corps inerte, un tas de chair ? En plantant sur son noble front une paire de cornes bien voyantes, épanouie dans le plaisir des garçonnières.
À peine arrivée,
Elle avait loué une chambre avec pension complète chez la vieille Adriana, recommandation de Lulu. Elle avait reçu des propositions de Veneranda, la propriétaire du bordel le plus élégant et le plus cher d'Aracaju. D'allure tapageuse, toute de luxe et de raffinement, soit, talon haut, une vraie madame du Sud, Veneranda ne paraissait pas l'âge enregistré sur son mystérieux certificat de naissance.
Poème de Victor Hugo.
Brésil, aux arbres semés d'or, j'aime votre patrie au ciel toujours pur, paradis qui se berce entre les flots d'azur, où le soleil brûlant, comme un phare féerique, couvre de ses rayons le sol de l'Amérique. Vous êtes le printemps, et moi, je suis l'hiver, je suis le soir tombant. Vous, le jour frais et clair. Et j'aime à regarder l'aurore s'épanouir. Oui, je sens de la force et de la joie me venir à vous voir.
Vous croissez, l'Europe, le vieux monde, dans l'histoire a vécu la rapide seconde de sa vie. Vous serez l'Europe, après-demain. Le moment est critique. Eh bien, prenez la main de l'avenir puissant qui vous attend. Alors, dans ce vaste Brésil aux arbres semés d'or, passeront le progrès, la force et la clarté. On voit sur votre front une aurore d'été.